Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Vous savez quoi? Eh ben, ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire attention, fermeture des portes. À moins que ça veuille dire attention au départ. Quoi qu'il en soit, ça se passe dans le métro japonais où les annonces se font très souvent en musique. Les gens le savent, ils n'ont pas besoin qu'on leur parle. C'est carrément obsédant aussi parfois, et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars, et Florence Paracolos qui fait de la course à pied en Algérie avec des femmes qui rend ses milliardaires au Panama et qui visite un musée de la vodka, ça se passe en Pologne. 18h50, la chronique de Sandy Dauphin chargée de refroidir la planète. Là justement, vous verrez combien on a perdu de sommets ces dernières années, y compris d'ailleurs parmi les plus hauts dans l'Himalaya. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Après la photo, le négatif, c'est la Chine qui est derrière l'objectif, nous dira Jean-Marc Four après cette photo entre Kim et Trump. Donc, et on parlera aussi d'un avion, mais tout de suite, c'est en Méditerranée que nous allons ce soir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Vous avez entendu dans le journal à l'instant les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes de l'Aquarius vont être emmenés jusqu'en Espagne. Comment aussi coûte que coûte l'Aquarius entend continuer sa mission. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Elle est un peu compliquée aussi la question qu'on a envie de poser ce soir, puisque d'emblée on a envie de dire qu'il faut évidemment aider tous les migrants perdus en mer, quoi qu'il en coûte, parce qu'on tient leur vie entre nos mains. La question de l'utilité, la question de l'instrumentalisation au milieu d'une politique européenne extrêmement compliquée, ces questions-là aussi elle se pose. Et bonsoir Pierre Mendiara.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint des opérations pour Médecins Sans Frontières. Vous aviez un bateau en Méditerranée que vous n'avez plus. Vous allez d'ailleurs nous expliquer pourquoi. Mais vous êtes présent sur l'Aquarius, puisque les médecins à bord de l'Aquarius, ce sont des hommes et des femmes à vous. D'ailleurs, ce sont des MSF Hollande. Et peu importe d'ailleurs que ce soit des Hollandais, des Belges ou autres. Mais en tout cas, vous êtes sur ce bateau. Juste un mot d'abord sur ce qu'on a entendu tout l'après-midi, parce qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui ont circulé quand vous entendez le gouvernement français parler de cynisme et d'irresponsabilité des Italiens. On ne peut pas s'empêcher de sourire un peu quand même, non?
Oui, de sourire jaune quand même, hein, parce que bon, effectivement, si ce qui se passe, ce qui se joue ces deux derniers jours en Italie avec les 629 personnes à bord de l'Aquarius, c'est absolument tragique. Et la position qu'a choisi de prendre l'Italie est extrême et très très critiquable. Et la solution vers laquelle on s'achemine est absurde. Hein, faire aujourd'hui 1500 km vers l'Espagne alors que nous avons des gens dans une situation...
Mais c'est même au-delà de l'absurde quand on pense que ce sont des bateaux italiens qui prennent une partie des migrants pour les emmener en Espagne.
Et souvenez-vous que ces bateaux italiens nous ont d'abord transféré ces personnes-là, puisque la majorité des 629 personnes ont été secourues par la marine italienne avant qu'ils nous les transbordent, et ensuite qu'ils nous demandent maintenant à les reprendre pour pouvoir les emmener, parce qu'effectivement c'était absolument impossible de faire le voyage avec l'Aquarius jusqu'à l'Espagne. Donc, la situation est tragique. C'est certainement un jeu politique pendable dont font les frais les 629 personnes à bord. Alors c'est vrai que l'attitude de Salvini est absolument cynique, mais enfin, on pense pas que la France soit bien placée pour donner des leçons sur l'accueil des migrants, vu tout ce qui se passe à la frontière, notamment italienne et française, avec, comme ça a été beaucoup documenté, le refoulement hors de toute procédure légale, y compris des mineurs, de ceux qui se présentent en France depuis l'Italie, par exemple.
Pas de leçon à recevoir, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Giuseppe Conte à l'instant. On savait de toute façon, Pierre Mendiara, que les Italiens pouvaient prendre une décision comme celle-ci avant même ces élections, puisqu'ils ont menacé de fermer leur port depuis très longtemps, finalement.
Pour moi, ça paraît quand même difficile à croire qu'ils aient pu, finalement, prendre cette décision. C'est-à-dire que pour des sauvetages qu'ils ont eux-mêmes effectués, alors que ce ne sont pas des solutions viables sur le long terme. Bien évidemment qu'on ne va pas à chaque fois faire 3000 km aller-retour à chaque fois que des gens sont repêchés dans la Méditerranée en provenance de Libye. Donc c'est vraiment un coup politique, on suppose. On comprend pas quelle va être la suite des opérations. C'est déjà une très très mauvaise nouvelle, le plus mauvais scénario que de devoir se rendre à Valence, ça n'a aucun sens. Donc on est très circonspect et très inquiet pour la suite.
Est-ce que ça peut décourager des gens comme vous, les ONG, mais décourager aussi, parce que comme vous l'avez dit, là en l'occurrence c'était les bateaux de la marine italienne, mais souvent ce sont des bateaux extérieurs qui trouvent les migrants et qui les emmènent aussi vers un bateau comme l'Aquarius. Est-ce qu'on peut se dire, quand on a un bateau aujourd'hui en Méditerranée, bah ça sert à quoi que je me déroute, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autorisation pour aller jusqu'en Italie, ça va devenir trop compliqué. Est-ce que ça peut dérouter un certain nombre de gens et faire que finalement, ils n'y vont plus chercher les canaux en fait?
C'est peut-être l'objectif de ce coup-là. Parce qu'à vrai dire, on a appris que hier, par ailleurs, 800 migrants qui avaient été secourus par la marine italienne ont été transférés, débarqués au port de Catane. Mmh. Donc c'est spécifiquement parce que c'est le bateau de SOS Méditerranée Médecins Sans Frontières, peut-être, que cette interdiction d'accoster a été mise en place.
Donc c'est un avertissement aux ONG, selon vous?
C'est plus qu'un avertissement. C'est la continuation de cette politique qui consiste non seulement à décourager, enfin à décourager, et aussi par tous les moyens, y compris par la criminalisation de l'aide. On la voit un peu en France aussi, mais on l'a vu avec l'arraisonnement de certains bateaux sur des motifs qui ne sont pas sincères, pour probablement ne plus avoir de témoins gênants en Méditerranée. On a peur que ce soit ça aussi l'objectif aujourd'hui.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de bateaux en Méditerranée? Alors pas seulement, mais il y a eu aussi peut-être cette raison. Vous en aviez aussi. À un moment, il y en a eu combien? Il y en a eu presque une dizaine, je crois. Il y avait 12 bateaux, 9 organisations non gouvernementales, dont vous, il y avait le fameux Prudence. Pourquoi vous avez renoncé à un moment? C'était quoi la raison?
Eh bien, en fait, en 2015, quand s'est terminée l'opération Sophia, et avant que l'Union européenne ne mette en place une autre opération de sauvetage en mer qui s'appelle Frontex, il y a eu un...
Donc c'était après Mare Nostrum même, qui avait été mis en place, et puis annulé, et puis Sophia, et puis une espèce de Frontex, effectivement, qui n'était même pas
fait.
Le Frontex
d'origine. Tout à fait. Eh bien, en 2015, entre ces différentes opérations, il y a eu une période pendant laquelle il n'y avait quasiment pas de moyens spécifiques pour faire les secours en mer en Méditerranée, et pendant cette période-là, énormément de migrants, ça se compte en milliers pour ceux qu'on a pu compter, se sont noyés à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là donc que s'est développée une vague de solidarité, je dirais, dans la société civile, et y compris des organisations comme Médecins Sans Frontières, qui n'avaient jamais fait de secours en mer auparavant, se sont dit qu'elles étaient obligées d'intervenir. Donc, depuis, à nouveau, l'Union européenne a développé une opération qui prend en charge aujourd'hui la majorité des sauvetages. Et donc, il n'était plus nécessaire d'avoir, comme auparavant, 10-12 bateaux. Sans compter qu'en plus, l'Union européenne, surtout l'Italie, tente de décourager les initiatives de la société civile. Donc, c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, il n'y ait plus que 3 bateaux, je crois, d'ONG. Et c'est aussi un rappel important à ceux qui disent, à ceux qui parlent de l'appel d'air ou qui disent qu'en fait c'est une espèce de collusion avec les passeurs. Non.
Parce qu'on vous l'a reproché, ça. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que je sais qu'il y a aussi débat, y compris chez vous. À quoi on sert? Comment on fait pour éviter d'être l'instrument de qui que ce soit? Parce que ce qu'on vous a dit, c'est de toute façon vous servez d'appel d'air. On vous a dit aussi vous êtes en collusion avec les passeurs parce que les passeurs savent bien que vous êtes là, donc ils peuvent balancer sur la mer des badauds dont ils savent très bien qu'ils vont qu'ils seront au bord de couler derrière. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Et est-ce que ça fait réfléchir chez des gens comme MSF, chez vous?
Alors, il faut toujours réfléchir, savoir à qui profitent nos actions et est-ce qu'on n'est pas effectivement manipulé par les uns ou par les autres. Donc, si on regarde les chiffres un peu objectivement, c'est très important de se souvenir que c'est en 2015, quand il n'y avait pas ces bateaux de la société civile, qu'il y avait le plus grand nombre de personnes qui tentaient de traverser et le plus grand nombre de personnes qui mouraient. Donc voilà pour les chiffres et voilà pour cette explication qui ne tient pas. Ensuite, si on parle de collusion avec les passeurs, vous savez que aujourd'hui, l'Union européenne, depuis à peu près un an et demi, a mis en place un soutien financier et logistique aux fameux garde-côtes libyens, pour essayer de faire en sorte que ces garde-côtes bloquent le départ des bateaux. Et aujourd'hui, on en arrive à un point où les garde-côtes libyens, qui ont beaucoup développé leur action grâce à ce soutien de l'Union européenne, interceptent aussi des migrants alors qu'ils ont réussi à quitter la Libye, qui sont dans les eaux internationales, et les ramènent en Libye. Or, qu'est-ce qu'on sait? Que ces garde-côtes sont, eux, de mèche avec les trafiquants. On sait que les migrants qu'ils récupèrent et qui sont placés dans des centres de détention officiels libyens, ces migrants se retrouvent souvent, parfois, ne sont pas enregistrés dans ces cas-là. Il n'y a aucune gestion transparente et respectueuse des personnes. C'est extrêmement documenté, l'ultra-violence contre les migrants dans les prisons en Libye. Et ces personnes-là se trouvent à nouveau dans le circuit des trafiquants et des passeurs. Si vous voulez, pour les gardes-côtes libyens, c'est un double business. C'est à la fois l'aide de l'Union européenne et c'est remettre des migrants en permanence dans le circuit. Donc c'est plus l'Union européenne qui aujourd'hui collabore avec les passeurs plutôt que la France.
Mais alors,
les ONG, pardon.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous le disiez, il n'y a que 3 bateaux. Visiblement, la situation est extrêmement difficile parce que si un Aquarius ou un autre ne peut pas accoster sur les côtes italiennes ou même ailleurs, allez savoir, ça devient compliqué. Est-ce qu'il faut trouver une autre solution? Est-ce que la solution d'un Aquarius, mais et de plusieurs Aquarius à nouveau sur la Méditerranée est la seule solution? Comment on fait? Comment ça marche? Comment on peut faire maintenant?
Alors, même au plus fort de la présence des bateaux, des organisations, des ONG, une très grande partie des sauvetages était assurée par la marine. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait que 3 bateaux ne veut pas dire que les sauvetages ne seront plus réalisés. En tout cas,
sauf si on peut plus accoster.
En tout cas, je l'espère. Mais on ne peut pas ne plus pouvoir accoster. C'est pas possible. D'abord, il y a les lois maritimes qui obligent le centre de commandement de sauvetage à identifier un port pour accoster.
Bien sûr.
Et puis même il
n'y
aurait pas ces lois-là, le bon sens et c'est même pas la morale, juste le bon sens fait qu'il faut bien trouver un endroit où accoster pour un bateau qui est en mer. Donc je ne crois pas que ce soit ça le risque. En revanche, il y a manifestement une volonté de se débarrasser de témoins de la société civile en Méditerranée. Et ça, évidemment, c'est extrêmement inquiétant.
Et est-ce que, du coup, la réponse, c'est de mettre d'autres bateaux à nouveau, donc, en mer? Est-ce que vous, MSF, vous vous posez la question? Est-ce que la question de votre présence sur l'Aquarius, elle se repose? Vous réfléchissez comment?
C'est trop tôt. C'est trop tôt pour réfléchir à ça. On est vraiment surpris des extrémités auxquelles sont arrivées les autorités italiennes avec cette affaire-là. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est de prendre en charge correctement les personnes qui sont sur l'Aquarius, de les débarquer dans des conditions dignes et aussi de s'assurer que finalement, la discussion et le débat, la discussion politique ne se fait pas... ne se fait pas sur leur dos d'une certaine manière et puis n'aggraverait pas encore leur situation parce qu'on voudrait à partir d'aujourd'hui négocier des choses toutes simples comme le droit toujours de pouvoir sauver des gens et les débarquer dans le port le plus proche où ils pourraient être en sécurité. Mais ces questions-là vont évidemment se poser.
Que la situation politique ne se fasse pas sur leur dos, j'entends ce que vous dites. En même temps, la question devient politique à la seconde où l'un d'entre eux pose le pied dans un bateau, non? Au final.
Absolument. Absolument. Mais ces questions, encore une fois, ne sont pas nouvelles. La criminalisation du secours en mer a déjà été enclenchée il y a longtemps. Il y a déjà d'ailleurs, enfin, ils ont. Vous vous souvenez que le bateau espagnol d'Open Arms avait été arraisonné, le Juventud allemand a été arraisonné. Donc c'est la continuation de cela. Mais d'abord, je pense qu'on a la ferme volonté de continuer à essayer de secourir des gens en mer. Et puis on se battra avec les moyens qui sont les nôtres. Pour pouvoir continuer à faire notre action, tout simplement.
Ça veut dire que vous restez sur l'Aquarius, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte.
Aujourd'hui, sans aucun doute, plus que jamais.
L'aller-retour à Valence,
plus que jamais.
Valencia-Espagne.
Absolument.
Merci beaucoup, Pierre Mendiera de Médecins Sans Frontières. Je suis en train d'essayer de retrouver votre titre. Voilà, directeur adjoint des opérations pour MSF. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Japon, dans le métro japonais même, où on ne parle pas, mais Dieu sait qu'on entend des choses. Vous allez voir, et ce sera en musique, ça s'appelle des Zekimelos, sous les radars en Algérie, au Panama et en Pologne. Trop chaud la planète, 110 dauphins avec des sommets qui rapetissent, figurez-vous, même dans l'Himalaya, et les fameuses neiges du Kilimandjaro aussi, qui ne seront bientôt plus qu'un refrain. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le monde à l'envers, qui commence par une histoire d'avion d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, en vitrine Kim et Trump, en coulisses la Chine, et un certain vol d'Air China. China qui transporte Kim.
Allez, on verra ça dans un instant. Le tour de la planète continue. Voici les Stones, Brown Sugar. Stone, Brown Sugar sur France Inter. Sous les radars, c'est tout de suite, et c'est Florence Paracolos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et on commence avec des filles qui courent en Algérie, Florence.
Des filles qui se sont donné rendez-vous sur la promenade des Sablettes à Alger ce week-end, et aussi des garçons, 500 personnes, d'autres à Constantine, pour dire que les femmes ont le droit de faire du jogging quand bon leur semble. Ce qui les a réunies, c'est une vidéo qui a fait le tour du pays.
جيت نعرف اسك حرام طفله دير سبور
La jeune fille qui parle s'appelle Rima. Elle porte un voile blanc. Elle raconte comment elle s'est faite agresser en ce mois de Ramadan alors qu'elle courait dans les rues d'Alger une heure avant la rupture du jeûne. Un garçon l'aurait frappée et insultée en lui demandant pourquoi elle court alors qu'elle devrait être dans la cuisine à cette heure-là. Elle dit qu'elle est allée porter plainte à la gendarmerie, mais que les gendarmes, eux aussi, lui ont demandé pourquoi est-ce qu'elle sortait faire son jogging à cette heure-là. Le coup de gueule de Rima a ouvert les vannes, raconte Jeune Afrique. D'autres femmes se sont mises à dire sur les réseaux sociaux la façon dont on les importune, et c'est un euphémisme, dans les lieux publics, dans les transports. Alors elles sont sorties ce samedi avec ou sans voile et avec leurs baskets et des pancartes pour dire « Laissez-nous tranquilles ».
Direction le Panama maintenant, édition spéciale sur toutes les télés hier, c'était le retour au pays de l'ancien président Martinelli, extradé par les États-Unis.
Buenos días, interesante todo lo que está sucediendo, son momentos
históricos que vive el país, la primera vez que un
Et oui, c'est la première fois qu'un ancien président du Panama revient en uniforme de prisonnier, menotte au poignet, Ricardo Martinelli, un multimillionnaire qui a fait fortune dans les supermarchés à la tête du pays entre 2009 et 2014, confondu par Wikileaks, la publication d'un câble, en l'occurrence, de l'ambassadrice américaine au Panama. On est en début de mandat et dans ce câble, au département d'État, son Excellence rapporte que le président Martinelli demande l'aide des États-Unis pour écouter ses opposants. Elle relève aussi ses méthodes d'intimidation et ses tendances autocratiques. Ça ne va pas l'empêcher à Martinelli de finir son mandat. Il va nier à l'époque avant de filer aux États-Unis quand il quittera la présidence. Mauvaise pioche, il est arrêté en Floride il y a un an, renvoyé chez lui, où il sera jugé pour avoir mis en place un réseau d'espionnage d'État, politique et journaliste placé sur écoute. Mais Martinelli a gardé de nombreux soutiens au Panama. Il envisage de se présenter à un poste de maire ou de député, avant pourquoi pas de postuler de nouveau à la présidence de la République. Tout ça s'il n'est pas en prison, évidemment.
Et puis vous nous emmenez au musée, Florence.
Et oui, un musée à la gloire du patrimoine polonais. Fabienne, Jean-Marc, Varsovie vient d'inaugurer le premier musée de la vodka. Les Polonais revendiquent la paternité de cet alcool de pommes de terre ou de blé. Ils disent que c'est eux qui l'ont inventé sur les rives de la Vistule il y a 500 ans et que les Russes n'auraient fait que suivre un siècle plus tard. Donc justice est rendue à la vodka polonaise à travers les âges, déclinée des alchimistes à nos jours en passant par la vodka communiste. C'est 10 euros l'entrée, dégustation comprise.
C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
C'était trop tentant.
Ouais, j'étais sûr que c'était l'extrait que vous aviez choisi. Merci beaucoup, Florence Paracuelos, dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
C'est où, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et ce soir, je vous emmène dans le métro. Eh ben oui, dans le métro, au Japon, dans le train aussi d'ailleurs. L'image que vous en avez, c'est sûrement des pousseurs pour que tout le monde s'empacte bien correctement dans les rames, des rames bondées à 160%. C'est quand même encore mieux qu'un jour de grève chez nous, mais c'est pas tout. Bonsoir Karine Michimura Poupée.
Bonsoir Fabienne.
Karine, il y a l'image évidemment, mais il y a surtout la bande-son. C'est ça que vous allez nous faire découvrir ce soir, une bande-son qui vaut le détour dans le métro, devant les trains, sur les quais. Racontez-nous ça.
Prendre le train ou le métro au Japon, c'est voyager dans un univers sonore unique où s'enchaînent sans cesse messages et courtes ritournelles. Si les passagers des très nombreuses rames de trains et métros sont étonnamment silencieux, il ne s'y passe pas une minute sans que retentisse une quelconque annonce ou musique, avec force indications sur les gares, instructions à suivre, mise en garde et remerciements. Aux informations préenregistrées s'ajoutent celles énoncées en direct par des préposés situés à l'arrière du train ou en gare. Par exemple, ce sont eux qui vont formuler les longues excuses si la rame a ne serait-ce que quelques dizaines de secondes de retard ou si le train s'arrête, car il faut impérativement informer et rassurer les passagers. C'est une question de psychologie humaine en général et japonaise en particulier, explique Kana Yamauchi du Centre de recherche sur le transport ferroviaire.
Quand le train s'immobilise soudainement, ce qui est le plus angoissant pour les voyageurs, c'est de ne pas pouvoir deviner la suite. Combien de temps va-t-il rester à l'arrêt ? C'est cela qu'ils veulent savoir en premier. Il arrive parfois que la compagnie ne sache pas elle-même, et dans ce cas, il est important de donner quand même le maximum d'informations, comme l'ampleur de l'incident et les actions mises en œuvre.
C'est aussi une question de qualité de service, le nerf de la guerre.
Quand se produit un incident, on a compris à travers les recherches à quel point il était important de communiquer des informations pour que les passagers comprennent que les choses sont prises en main. De ce point de vue, le fait de diffuser ces messages joue grandement pour élever la qualité de service.
Mais certains trouvent que cela fait trop, et d'autres pas assez. Bref, ça ne convient pas encore.
Soyez plus précis encore, exigent désormais les passagers auprès des compagnies. Bref, le niveau des réclamations a lui aussi augmenté d'un cran.
L'une des autres particularités des très denses, très fiables, très sûrs et très ponctuels réseaux ferroviaires du Japon, ce sont les Ekimelo, littéralement les mélodies de gare, qui annoncent tantôt l'arrivée d'un train à quai, les Sekimelo, tantôt la fermeture des portes et le départ, les Hachamelo. Hiroshi Shiozuka a composé ou arrangé plus de 200 Ekimelo.
Primo, le plus important, c'est que ce soit une jolie musique. En plus, les mélodies que j'ai créées sur 7 ou 10 secondes constituent une petite histoire bien ficelée, une mélodie qui doit toucher les passagers.
Elles
sont liées au souvenir des gares où l'on est allé, des trains dans lesquels on est monté.
Il arrive en effet à ce passager de 45 ans de siffloter sous la douche la mélodie de la gare proche de son domicile, celle qu'il fréquente tous les jours.
Quand j'étais enfant, le départ des trains était encore annoncé par un banal pourou-rou-rou. Mais petit à petit, ça a été remplacé par des mélodies, ce qui m'a d'abord intrigué. Mais quand on va dans une gare qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter et qu'on entend une mélodie pour la première fois, ça crée une sensation nouvelle.
Les premières Ekimelo sont apparues dans les années 70 à l'ouest du Japon, avant d'arriver à Tokyo à la fin des années 80.
En 1987, les compagnies GR nouvellement privatisées ont réfléchi à l'état de nouveautés qu'elles pourraient proposer. Et parmi elles est apparue l'idée des mélodies. Ce projet a été concrétisé en 1989. Je ne pense pas me tromper en disant qu'une telle initiative était alors inédite à cette échelle.
Les compagnies pensent ou espèrent qu'elles sont utiles aux passagers. Écoutez ce porte-parole de Tokyo Metro.
Quand il s'agit de métro souterrain, on est dans une situation où on ne voit pas à l'extérieur et en ce sens, les mélodies qui reflètent les lieux permettent aux passagers de comprendre avec cette musique-là où ils se trouvent.
Initialement, les Ekimelo n'ont pourtant pas forcément été bien accueillis.
Au départ, énormément d'usagers se sont plaints, jugeant qu'il n'y a pas besoin de musique dans les gares, que ça ennuie plutôt qu'autre chose. Et en plus, c'était à un moment de nette augmentation du nombre de suicides sur les quais. Certains ont même dit des trucs hallucinants, que les Ekimelo excitaient les passagers, et que c'était pour cela qu'ils se jetaient sous le train.
À l'aube des années 2000, les Ekimelo sont devenus très populaires grâce à des passionnés du rail qui les ont enregistrés et diffusés en ligne ou les ont transformés en sonneries de mobile. Elles laissent aussi un souvenir sonore aux touristes étrangers.
Lorsque les passagers de différents pays prennent les trains et les métros au Japon et entendent ces différentes mélodies, je pense qu'ils se demandent pourquoi les compagnies nippones sont capables de proposer un service d'une telle excellence.
Et je suis pas sûre qu'on aimerait prendre le métro au Japon. Karine Michimura Poupée, merci mille fois, reporter pour l'AFP au Japon et pour nous dans Un jour dans le monde, avec grand plaisir. Jean-Marc, un petit coup pour la route. Ah mais ça me rendrait folle.
J'adore.
Allez, Young Father in my view sur Inter. Dancing for the Lala, tagging for the damn, the damn, the damn. Fine wine and foie gras. In my view, nothing's ever given away. I believe to advance, then you must pay. In my view, love will never come my way. So when I leave. Just a man. Grandfather, In My View, sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Synthès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et Sandy Dauphin, comme chaque mardi, qui est là pour reverdir et refroidir la planète, cette fois en altitude. Bonsoir Sandy.
Bonsoir Fabienne.
Sandy, vous êtes à Chamonix pour un grand colloque international sur l'avenir durable des hautes montagnes du monde. Durable, c'est bien là le nerf de la guerre d'ailleurs. Le Mont Blanc, l'Everest, le Kilimandjaro, magnifique, mythique. Mais pour combien de temps, Sandy? Tous menacés par le changement climatique et par la surfréquentation. Emmenez-nous d'abord vers le plus haut, les plus hauts même.
Oui, parmi ces sommets mythiques, il y a bien sûr l'Himalaya, la chaîne de montagnes concentre à elle seule 14 sommets de plus de 8000 mètres. L'impact du changement climatique y est bien réel, explique Dawa Steven Sherpa. Il dirige une agence de voyage aventure au Népal.
Lorsque mon père avait 11 ans, il faisait l'interprète pour des groupes internationaux d'alpinistes. Il a notamment participé à une expédition japonaise sur le Lhotse, le quatrième plus haut sommet du monde. À l'époque, ils ont campé sur un glacier qu'on appelle le glacier Imja. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a un lac de 2 km de long à l'endroit même où ils avaient campé, car le glacier a complètement fondu.
Alors on l'a entendu, Sandy, en 50 ans, ce glacier de l'Himalaya a disparu. C'est quand même fou, j'imagine que des exemples comme ça, eh bien, hélas, il y en a beaucoup.
Oui, aujourd'hui, tous les glaciers du monde sont en retrait. Mais attention, ils ne se comportent pas tous de la même manière. Ça dépend de beaucoup de facteurs, de l'altitude, du climat local. Luc Moreau, glaciologue et docteur en géographie alpine.
Alors en Himalaya, on se rend compte que les glaciers fondent un peu moins que dans nos Alpes. On a des reliefs et des climats qui sont un peu particuliers avec le relief alpin et donc aussi des étés chauds, donc ce qui fait que nos glaciers diminuent très vite. En Islande, les glaciers diminuent très vite aussi. Et puis au Groenland, en fait, les glaciers qui arrivent dans la mer s'accélèrent, lâchent de plus en plus d'eau douce terrestre dans l'eau salée. Et ça, c'est un peu le challenge du climat dans l'avenir.
Et forcément, le changement climatique a des impacts sur la manière dont on pratique la haute montagne, Sandy.
Eh bien oui, déjà en termes de sécurité, il y a de nouveaux risques d'écroulement rocheux, d'éboulement à prendre en compte. Il faut parfois revoir l'accès à certains refuges. Et ce n'est pas la seule source de préoccupation pour Lionel Abasque, PDG de l'agence de voyage Terre d'Aventure.
Aujourd'hui, quand vous avez des glaciers qui reculent, très concrètement, il y a des sommets où on ne peut plus y aller. Vous prenez l'exemple du Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, les neiges éternelles, il n'y en a quasiment plus maintenant. Donc c'est quand même un vrai souci. Donc l'idée, c'est effectivement de voir dans quelle mesure on peut aider à cette préservation de l'environnement.
Voilà, plus de neige au Kilimandjaro. Dites-moi, c'est quand même terrible. L'autre grande menace pour les sommets emblématiques, Sandy, c'est l'activité humaine, bien sûr.
Oui, et même si l'alpinisme en haute montagne reste un sport élitiste, hein, la fréquentation des sommets emblématiques augmente et cela génère des problèmes de déchets. Le camp de base de l'Everest est une triste illustration avec ses tonnes de plastique et de ferraille abandonnées. Alors faut-il limiter l'accès à certains sommets pour éviter les embouteillages? La question divise. Freddy Ménian, président de l'association de protection de la montagne, Mountain Wilderness, n'est pas convaincu.
Il y en a qui le font clairement. Il y a des pays anglo-saxons, pour ne pas les citer, mais c'est vrai dans tous les parcs. Hein. Dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, il y a un certain nombre de personnes autorisées par jour, voire même il y a des tirages au sort pour savoir qui a le droit d'y aller. Bon, en France, on en est loin, très très loin. Je suis pas sûr que ça soit bon pour donner envie d'aller en montagne. Enfin, j'ai plus envie, voilà, d'une démarche positive qu'une démarche contraignante.
Oui, et ici, au pied du Mont Blanc, la question faut-il ou non réglementer l'accès à ce monument naturel, 15 000 passages par été, suscite bien des débats. Le maire de Saint-Gervais y est favorable, celui de Chamonix, pas du tout.
Merci beaucoup, Sandy Dauphin, avec nous dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, évidemment, c'est l'image du jour. Hein. Elle va le rester d'ailleurs pour un moment, j'imagine. C'est la poignée de main entre Kim et Trump à Singapour. Mais derrière cette façade spectaculaire, s'il en est, Jean-Marc, du rapprochement États-Unis-Corée du Nord, le maître du jeu, vous dites, est peut-être ailleurs et c'est votre monde à l'envers. Ce soir, le maître du jeu, c'est sans doute la Chine.
Oui, c'est vrai que la photo de la rencontre Kim-Trump a fait le tour du monde. Florence Paracuellos en parlait tout à l'heure dans le journal. Et moi, j'aimerais vous parler d'une autre photo, peut-être plus révélatrice encore de ce qui s'est passé à Singapour. Cette photo, la voici, je vous la montre ici en studio, je vous la donne, Fabienne, la voici. Vous la trouverez, bien sûr, vous qui nous écoutez sur franceinter.fr. C'est Kim Jong-un à sa descente de l'avion lorsqu'il est arrivé à Singapour. Cherchez l'anomalie sur l'image.
Ben,
c'est à l'arrière-plan, vous avez trouvé. Ben oui, il descend d'un Boeing 747 Air China avec le drapeau chinois sur le fuselage, on le voit très bien, juste derrière lui. C'est-à-dire que Kim est d'abord monté dans un avion nord-coréen direction Pékin, puis à Pékin, à sa demande. Il a donc embarqué dans un avion chinois, et pas n'importe lequel, parce que c'est celui du Premier ministre Li Keqiang. Et ce soir, il s'apprête, je peux vous le dire, à repartir en sens inverse, à bord probablement du même appareil. C'est le vol China Airlines 62 qui est arrivé à Singapour cet après-midi en provenance de Pékin. Vous trouvez ça anecdotique ? Ça ne l'est pas du tout. A fortiori pour un dirigeant qui met au plus haut la notion de juche, ça veut dire en coréen l'indépendance, l'autosuffisance. Donc en l'occurrence, il renonce au juche pour s'en remettre à Pékin. Donc après des hauts et des bas entre les deux capitales, il faut pas s'y tromper, nous sommes bien revenus à la position du tuteur hérité de la guerre de Corée. C'est pas un hasard si Kim a déjà rencontré les dirigeants chinois deux fois cette année. La Chine demeure donc le grand frère politique qui couvre le régime stalinien de Pyongyang, le grand voisin qui possède 1500 km de frontières communes, le grand partenaire économique avec lequel s'effectuent 90% des échanges commerciaux. Autrement dit, rien ne se fera sans Pékin.
Oui, mais les Chinois ont un intérêt dans l'affaire.
Évidemment qu'ils ont un intérêt dans l'affaire, et même plusieurs. Le premier est de nature économique. Si un désenclavement commercial de la Corée du Nord s'engage, qui va en profiter à votre avis? Qui est dans les starting blocks, dans la zone frontière de Dandong, pour lancer des dizaines de projets d'investissement dans cette économie nord-coréenne qui a été plombée par la fermeture au monde et par les sanctions internationales? Qui a les moyens en capitaux? Vous avez compris, la Chine. Et puis, il y a sans doute un autre calcul qui relève davantage là du billard à trois bornes. Pendant que le monde a les yeux braqués sur Kim et sur Trump, la Chine pousse ses pions dans le reste de la région. Elle se déploie militairement de plus en plus en mer de Chine, au nord, près du Japon, au sud, près des Philippines. Et elle ne cesse d'isoler davantage son propre rival chinois, c'est-à-dire Taïwan. Par-dessus le marché, elle peut même espérer un rapprochement avec le Japon. Pourquoi ? Parce que Tokyo est contrarié sur le dossier nord-coréen. Washington, en fait, semble laisser de côté la question des missiles moyenne portée de Pyongyang qui menacent uniquement le Japon. Donc, contrairement à Trump qui fait du poker, on en parlait hier soir, la Chine joue aux échecs, au jeu de go et pense au coup d'après.
Oui, sauf que c'est quand même Trump qui négocie, là.
Oui, ça c'est vrai, mais si on regarde bien, primo, comme vous dites, bah, il négocie. Donc, dans une négociation, il faut bien lâcher quelque chose. Là, qu'est-ce qu'il a lâché ? Une suspension, voire un arrêt des manœuvres américaines au large de la Corée. Autrement dit, un début de désengagement militaire des États-Unis dans la région. Qui se frotte les mains ? La Chine. Secondo, Trump fait une négociation bilatérale, pays à pays. Il ne sait pas faire autre chose, on a bien compris. Donc, conséquence, les États-Unis sortent de leur rôle des 70 dernières années, celui du garant des accords, non pas bilatéraux, mais multilatéraux. Ils ne peuvent plus être ce que la diplomatie anglo-saxonne appelle le courtier honnête, the honest broker, puisqu'ils sont jugés partis. Alors, qui peut désormais hériter de ce rôle de parrain, de garant, d'arbitre, qui reste au-dessus de la mêlée pour donner, ou non d'ailleurs, son feu vert à la fin ? Je vous le donne en mille. CQFD, Pékin. Donc oui, c'est sans doute la Chine qui vient de remporter le match États-Unis-Corée du Nord.
Jean Marfour, à demain dans Un jour dans le monde à l'envers, c'est tous les jours. Merci beaucoup. Les 18-20 continuent avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne avec l'ami Stéphane Leneuf ce soir depuis le Parlement européen de Strasbourg. Stéphane, c'est la PAC, la politique agricole commune qui nous intéresse. Bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne. Effectivement, on va parler de la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Réforme présentée vendredi dernier par la Commission européenne. La Commission propose pour les années à venir une baisse très forte du budget de la PAC et une forme de renationalisation des aides. Alors ça fait hurler tout le monde. Ça coince partout. Hein. Le gouvernement français a jugé ça inacceptable. La FNSEA n'en veut pas. Les organisations écologistes estiment que c'est une catastrophe pour l'environnement et le climat. On va tenter d'y voir plus clair avec nos invités dès 19h20. Et j'attends bien sûr vos appels au 01 45 24 7000.
Et à tout à l'heure, Stéphane.